Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous connaissez-vous vous-même? Savez-vous ce qu'est la nature humaine? La vôtre, la mienne. Cette nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Souffrons-nous d'orgueil, vous et moi? Savez-vous que la plupart du temps, nous sommes nos propres ennemis nous-mêmes? Nous faisons des choses parfois sans vouloir, ensuite nous regrettons. Pourquoi? Parce que la vanité est en nous. Cette vanité en nous nous dirige vers une direction qui n'est pas toujours bonne. Mais cette nature humaine, malheureusement, est pour le bon, parce que la raison pour laquelle Dieu a fait les choses ainsi, cette nature humaine, dis-je, est sujette aux influences sataniques. Eh oui! Nous savons fort bien que Satan existe dans ce bon monde. Bien que beaucoup de gens n'y croient pas, Satan domine les affaires de ce monde, Satan nous influence, et Satan, la plupart du temps, dirige nos pensées humaines, à moins que nous, chacun de nous, nous ayons nos pensées dirigées vers Dieu. À moins que chaque jour, chaque seconde, je dirais même dans notre vie, nous marchions main dans la main avec Dieu. C'est la seule façon de résister à Satan le diable. Comme je vous ai dit la dernière fois dans mon sermon consacré au sujet de l'orgueil, l'orgueil fait partie de cette nature humaine. Satan avait l'orgueil en son cœur, c'était sa chute. Et à cause de cette chute, il veut que nous, en tant qu'êtres humains, nous chutions aussi. Voyez-vous, je vous ai cité la dernière fois, l'apôtre Paul dit que Satan le diable est encore le dieu de ce siècle. Je vous ai expliqué comment et pourquoi. Le fait est, mes frères et mes sœurs, que nous sommes, nous, même dans l'Église de Dieu, sujets aux attaques sataniques. Je vous ai expliqué que chacun de nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'être sur nos gardes, comme l'apôtre Paul l'a dit, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Je vous ai cité même 1 Pierre chapitre 5, où Pierre dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voilà la récompense. Il dit « Déchargez-vous. » 1 Pierre chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voici comment vous pouvez lutter contre Satan, contre sentiment de découragement, contre sentiment de faiblesse. Soyez sobre, verset 8. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Non. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voici donc la base. Et je continue. L'apôtre Jacques lui-même a parlé de cela, il a dit « Résistez-vous au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, dit-il, et Dieu s'approchera de vous. » Ce sont des principes de base. Car voyez-vous, Satan est beaucoup plus puissant que nous, humainement parlant, nous n'avons presque rien. Mais Dieu a tout, Dieu peut tout. Et le fait est que Dieu a permis à Satan de jouer ce rôle. Eh oui, Dieu peut faire toutes choses. C'est Dieu qui, dans sa sagesse infinie, a décidé qu'il en soit ainsi. Il veut que nous passions par ces épreuves, c'est-à-dire par les attaques de Satan, afin que nous puissions arriver au but final pour lequel nous avons été créés. L'orgueil, mes frères et mes sœurs, fait partie de cette nature humaine. Malheureusement, je le répète, vous et moi, nous sommes sujets à ces sentiments d'orgueil. Satan le diable, au commencement, n'était pas un être hostile, n'était pas l'ennemi de Dieu, pas du tout. Au commencement, Satan était un archange sur cette terre et il dominait sur les autres anges qui étaient devenus démons à cause du fait qu'eux aussi, comme Satan, avaient été déchus. Satan était un archange. Il dirigeait les anges sous lui. Mais l'orgueil est entré dans le cœur de Satan. Il s'est rebellé contre Dieu. Il voulait être Dieu, avoir la même puissance, la même force, être au sommet, comme il disait. Et vous savez quoi? Du sommet qu'il désirait, il est tombé. Il est tombé affreusement. Il est tombé sans espoir. Autrement dit, Satan est devenu, Lucifer est devenu Satan le diable. Je vous ai parlé de tout ça. Je vous ai cité Ésaïe 14, où tout cela est écrit clairement. Je vous ai cité Ézéchiel 28. Là encore, tout cela est cité clairement. Ensuite, je vous ai parlé comment ce monde est soumis à l'influence de Satan et les raisons pour lesquelles c'est ainsi. Et maintenant, continuons. Le Christ sur cette terre, il nous a mis en garde contre Satan. Ses apôtres ont fait de même. Ensuite, le Christ nous a dit quelque chose que nous tous, en tant que chrétiens, en tant que, je dirais, humanité, partie de l'humanité, nous devons savoir. Vous savez quoi? C'est Jean, chapitre 8, verset 30. Regardez voir ce que le Christ a dit. Et ça, c'est la base afin de pouvoir lutter contre Satan et ses démons. Le Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31, vous êtes vraiment, dit-il, mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je répète, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. Si vous connaissez cette vérité, pourquoi Satan existe, pourquoi il fait ce travail, et que vous devez toujours faire votre part sans jamais craindre Satan, c'est cette vérité de base, cette vérité vous affranchira. La vérité de la Bible vous affranchira parce que la Bible dit pourquoi Dieu a fait ainsi. La raison pour laquelle Dieu permet à Satan de vous séduire, de me séduire, de nous séduire. Mais nous ne devons jamais avoir peur de Satan. Satan ne peut absolument rien faire si, je répète, nous marchons avec Dieu, main dans la main. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la plupart de nous qui connaissons ces vérités, nous ne sommes pas sur nos gardes. Nous craignons, nous avons peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur est inspirée par Satan le diable. La foi, le courage, sont des sentiments qui nous viennent de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce qui est intéressant, voyez-vous, notre orgueil, qui est planté par l'influence de Satan, nous fait pencher plutôt vers la crainte ou vers la vanité. C'est exactement ce qui s'est passé avec le premier couple. Voyez-vous, lorsque Dieu avait dit au premier couple, voici, c'était dans le jardin d'Éden, donc, profitez-en de la bonne façon, jouissez-vous de, toutes ces choses, mais il y a un arbre dont vous ne devez pas manger le fruit. Et ça, vous savez, ce que Lucifer, devenu Satan, a fait, il savait exactement comment l'homme et la femme choisiraient, donc il s'approche du premier couple. Regardez voir comment les choses sont décrites dans la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Le serpent, voyez, donc serpent, c'est Lucifer devenu serpent, devenu Satan le diable, mais à l'époque même, le serpent avait un air différent. Notez-le. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voyez-vous? Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc, voyez-vous, là, le serpent même parle à la femme dans un langage qu'elle comprend. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est vrai. Sauf un seul. La femme répondit au verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, gardez maintenant le mensonge. Enfin, pas le mensonge, mais comment la femme a détourné la vérité. Dieu a dit, que Satan a dit, non, je m'excuse, Dieu a dit, vous n'en mangerez point de... Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ah, ah. Où est-ce que vous voyez dans la Bible que Dieu a dit « vous n'y toucherez point » Voyez-vous, voilà comme ça l'orgueil agit en nous. Nous cherchons des excuses. Dieu avait dit, dans Genèse chapitre 2, « si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez sûrement. » Ça, c'est le texte original hébreu. Donc, c'est ce que Dieu avait dit. « Si vous mangez de ce fruit défendu, vous mourrez sûrement. » Tandis que la femme tord l'instruction de Dieu. Elle a dit, Dieu nous a dit, vous n'y toucherez même pas, gardez voir ça, de peur que vous ne mouriez. Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Voici ce que l'être humain fait. Évidemment, Satan a profité de l'occasion et dit, non, dit-il, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'orgueil. C'est le même orgueil, les sentiments d'orgueil que Lucifer avait et qui a causé sa chute. Notez, je répète, que ce serpent à ce moment-là, lorsqu'il parlait à la femme, était un être de ce sens qu'il est plus rusé, comme la Bible dit, et il pouvait séduire donc le premier couple comme il a pu faire du reste. Mais pourquoi est-ce que la femme se laissait séduire? Pourquoi est-ce que l'homme se laissait séduire? Parce que l'homme et la femme voulaient quelque chose qui leur était défendu. Ça, c'est encore dans la nature humaine. Vous savez, d'une façon générale, nous ne sommes pas contents de ce que nous avons. Ou bien, nous voulions échanger tout ce que nous avons contre quelque chose qui est défendu et que nous voulions avoir. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est votre nature, c'est la mienne en même temps. Nous avons tout, et sauf quelque chose, et ce quelque chose devient, dans notre vie, important. Je dirais même indispensable. Pensez à cela, car beaucoup de familles ont été détruites à cause de ce sentiment d'orgueil. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont échoué dans leur vie parce qu'ils ont, je dirais, voulu quelque chose, désiré quelque chose qui n'était pas la bonne chose à vouloir ou à désirer. Voilà des leçons que nous pouvons apprendre. Donc, après 6000 ans d'existence, aujourd'hui nous sommes toujours au même point de départ. Autrement dit, nous croyons à Satan et non pas à Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous écoutez quelqu'un, un prédicateur ou bien n'importe quelle religion, je dirais, la base de toute religion, c'est l'immortalité. Chaque religion vous enseigne l'immortalité et vous pouvez croire que nous sommes des êtres immortels. Mais nous ne sommes pas des êtres immortels. C'est le premier mensonge que Satan le diable a prononcé et qui a causé donc la chute du premier couple et qui peut causer la vôtre et la mienne. Aujourd'hui, vous entendez souvent dire qu'on n'a pas besoin d'obéir à Dieu. Ça encore, là encore, c'est un mensonge satanique. Regardez voir comment maintenant l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, décrit un peu ces événements d'une façon claire. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. On parle de Satan, mais on parle de Lucifer devenu Satan. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà la description. Afin qu'il séduise toute la terre. Voyez-vous, Dieu a permis cela. Et il fut précipité, cet être-là, ce diable, sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je vous ai expliqué la dernière fois que Lucifer est devenu Satan. Ensuite, les anges, le tiers des anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Voici la raison pour laquelle ce monde aujourd'hui souffre. Mais Dieu a permis. Tout ça se passe parce que Dieu a un dessein sur cette terre. Tout se passe conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas avoir peur de Satan. Il ne peut absolument, je répète, rien faire si nous ne voulons pas qu'il le fasse. Si nous sommes avec Dieu, Satan ne peut absolument rien faire pour nous faire chuter, pour nous détruire, ou bien pour nous diriger sur le mauvais chemin. Ayez cette foi et cette conviction, car ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, lorsque vous vous regardez autour de vous, vous pouvez voir tellement de gens qui sont un peu confus dans ce sens qu'ils ne savent pas pourquoi il y a tant de misère sur cette terre. Mais la raison pour laquelle il y a des misères, c'est parce que les gens ne croient pas à l'existence de Satan, alors que celui-ci existe, et ne voient pas l'influence de Satan dans leur vie, dans leurs pensées, sur leur sentiment d'orgueil. L'orgueil, je répète, c'est la base de notre souffrance. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut donc précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan, celui qui séduit toute la terre, voyez-vous. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et dès ce moment-là, ce monde est devenu donc sous l'influence, sous la direction de Satan. L'apôtre Jean écrit aussi dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous, voilà, ou bien vous êtes sous la puissance divine, ou bien sous la puissance du malin. Et Jean dit, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes convertis, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas sous l'influence de Satan, mais nous sommes sous l'influence de Dieu. Le Christ sur la terre, il y a 2000 ans, a fait cette expérience. Il a dit qu'il reviendrait, et le jour qu'il reviendra, c'est à ce moment-là que Satan, le diable, sera éloigné de l'humanité, sera enchaîné, pour ainsi dire, et plus jamais il va séduire les hommes. Mais jusque-là, Satan est encore libre. Le Christ nous a mis en garde contre Satan. Le Christ nous a mis en garde contre les sentiments d'orgueil. Le Christ nous a mis en garde contre les sentiments de vanité. Le Christ nous a mis en garde contre le péché. Alors que Satan veut que nous péchions, il nous présente toutes choses comme si c'était beau, comme si c'était désirable, comme si c'était nécessaire. C'est ainsi que souvent, Satan, le diable, nous met sur de mauvais chemins. Aujourd'hui, je répète, le monde se laisse dominer par les sentiments d'orgueil, de vanité, d'hypocrisie. Autrement dit, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre les lois que Dieu a prescrites pour notre bien. Dans Matthieu 24, où le Christ a parlé de son retour, le Christ nous a mis en garde contre plusieurs choses. Le Christ nous a mis principalement contre le mensonge prononcé par Satan le diable. Voyez-vous, le Christ était sur cette terre à l'époque, il y a 2000 ans, lorsqu'il parlait à ses disciples, à ses apôtres. Et il a dit à ses apôtres que lui, le Christ, reviendrait. Et lors de son retour, la deuxième fois, ce sera en tant que le Messie. Parce que la première fois, lorsque le Christ est venu, il n'est pas venu en tant que Messie. Il est venu en tant qu'être humain en partie, que les gens, que les hommes ont attaqué, ont crucifié même. Mais lors du retour du Christ, personne ne pourra le crucifier. Personne ne pourra l'attaquer. Le Christ viendra en tant que Seigneur des Seigneurs et c'est Roi des Rois, si vous voulez. Et alors, il va gouverner le monde. Et il n'y aura plus un Satan pour séduire les gens. Mais ça, c'est une autre histoire. Continuons avec ce sujet de Satan qui va être mis dehors de ce monde lorsque le Christ reviendra. Mais parlons du Christ. Le Christ a dit, il y a donc 2000 ans, que lorsqu'il viendra, il va remettre les choses en place, mais il nous a donné en même temps des avertissements forts. Il a dit, écoutez, il a dit, prenez garde. Voyez-vous, si le Christ nous dit prenez garde, nous devons y faire attention, nous devons savoir que Christ sait ce qu'il dit, que Christ veut que nous puissions vraiment être sur nos gardes. Quel est vraiment, quels sont les avertissements que le Christ donne dans Matthieu 24? Bon, laissez-moi vous citer deux ou trois versets. Matthieu 24, verset 4. Le Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Voyez-vous, voilà le premier et le plus important avertissement. Ne vous laissez pas vous séduire. Et qui est-ce qui vous séduit? C'est Satan, le diable. Prenez garde de que personne ne vous séduise. Car plusieurs, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, en tant que chrétien, en tant que même prédicateur, si vous voulez, disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Allez voir, mes frères et mes sœurs autour de vous, combien de gens aujourd'hui prêchent la vérité? Combien de gens prêchent au nom du Christ? Et pourtant, ils ne prêchent pas ce que le Christ a prêché. Ce n'est pas l'Évangile qu'il a prêché. Ils ne disent pas que nous devons nous détourner du péché. Non. Au contraire, vous entendez dire que les lois ont été abolies. Ce genre d'enseignement ne vient pas du Christ. Ça vient du diable. Et voilà pourquoi le Christ a dit, gardez-vous de faux prophètes qui vous séduiront. Il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et dans ce même chapitre, dans Matthieu 24, le Christ demeure aussi en garde contre une autre chose. Il dit, vous avez souffert, je paraphrase, il dit, vous avez souffert en ce bon monde, l'humanité a souffert, vous avez eu des guerres et des bruits de guerre, il dit, mais il y aura des jours juste avant le retour du Christ où les tribulations sur cette terre seront terribles, pire que jamais auparavant. Regardez voir. Il dit, verset 21, Matthieu 24, « Car alors, dit-il, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement de ce monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Je vous ai dit, et vous savez, certains d'entre vous qui m'écoutaient, peut-être vous avez vu ce que c'est qu'une guerre. Peut-être vous avez même participé à une guerre. Vous savez ce que c'est qu'une souffrance. Les holocaustes dont on parle. Je vous ai dit la dernière fois, décrit comment tellement de gens, 200 millions je pense, 230 millions, ont perdu leur vie pendant les deux premières guerres mondiales. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le Christ nous met en garde et dit, et il y aura des jours qui seront encore pires. Comment ça peut être pire? Eh bien, ça sera pire parce que les gens vont se laisser séduire davantage, de plus en plus, par les fausses parole de Satan, par la fausse publicité de Satan. Et le Christ ajoute, verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, personne ne serait vivant. Mais à cause des élus, dit-il, ces jours seront abrégés. » Qui sont les élus? Les élus ne sont pas des gens qui sont privilégiés. Ce ne sont pas des gens qui, eux, sont plus forts que les autres. Non. Les élus sont ceux qui marchent main dans la main avec Dieu, qui ont été appelés, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce que Dieu leur a confié une tâche, une responsabilité. Cette responsabilité consiste à proclamer l'Évangile avant le retour du Christ. Autrement dit, préparer le chemin du retour du Christ. C'est ça, les élus. Malheureusement, le christianisme aujourd'hui, je répète, ne croit pas à cela. Le christianisme rejette la Bible, surtout l'Ancien Testament. Écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous rejetez l'Ancien Testament, vous pouvez dire, comme Satan vous fait croire, ou fait croire le monde, que les lois ont été abolies. Non, les lois ne sont pas abolies, elles ne le sont jamais. car tout en ce bas monde, même en cet univers, est régi par des lois. L'Ancien Testament est indispensable pour comprendre le plan de Dieu. L'Ancien Testament est indispensable pour comprendre pourquoi et comment Satan le diable nous attaque. L'Ancien Testament est indispensable car les prophètes de Dieu nous enseignent exactement la voie divine, nous montrent comment nous diriger dans la bonne voie. Voyez-vous, je vous ai montré Matthieu 24. Le Christ a dit que les jours qui viennent seront pires que jamais auparavant. Pire signifie pire. On ne peut pas avoir deux choses pires que l'un l'autre. Regardez-moi, dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 12, par exemple, verset 1. Daniel, le prophète de Dieu, a dit exactement ce que le Christ a dit plus tard dans Matthieu 24. Laissez-moi citer Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, dit-il, se lèvera Michaël ou Michel, le grand chef défenseur des enfants de ton peuple. Autrement dit, Lucifer était au début un archange, il est tombé, il est devenu le Satan, le diable. Mais il y a des archanges. Il y a l'archange Michel que vous voyez ici, il y a Gabriel. Donc, ces archanges sont toujours proches de Dieu. Et ces archanges protège le peuple de Dieu. Ici, vous avez Michaël ou Michel. Il dit, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et qu'il n'en aura jamais été jusqu'à la fin. Autrement dit, je paraphrase ici, Daniel dit, dans Daniel 12, chapitre 12, verset 1, la même chose que le Christ a dit dans Matthieu 24. Alors, nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous savons ces choses. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous agissons avec prudence ou avec orgueil? Est-ce que nous nous soumettons sous la protection divine? Est-ce que nous donnons, nous, libre accès ou bien nos libres voix à nos sentiments charnels? Ce sont des questions que je vous pose, voyez-vous, car Satan est toujours présent. Les démons sont toujours là. Mais le plan de Dieu est toujours là aussi. Dieu est toujours là, je répète, Dieu est toujours là pour nous protéger. Donc, nous ne devons pas nous laisser succomber à nos sentiments charnels. Satan attaque l'Église. Aujourd'hui, Satan voudrait attaquer tous ceux que Dieu a appelés, qui sont membres de l'Église, de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui obéissent à Dieu. Satan voulait les attaquer. Satan voulait détruire. En fait, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler, mais étudiez Apocalypse 2 et 3, les chapitres. Là, vous avez la description des églises de Dieu. Au début, les sept églises de Dieu, je dirais, qui ont été établies, construites, ou bâties, si vous voulez, après la mort du Christ par les apôtres. Les apôtres, donc, ont eu dans Apocalypse 2 et 3 des églises. Vous verrez comment Dieu, le Christ, décrit chaque église. Ça vaut la peine. Il y avait des églises, sont toutes des églises de Dieu, mais elles sont détournées de Dieu parce qu'elles ont fait quelques compromis. Un compromis, c'est toujours dangereux. Vous commencez par un compromis, vous n'en finissez pas. Et Satan sait fort bien ce côté de la nature humaine. Ça fait partie de votre orgueil, pour ainsi dire. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, Dieu dit à chaque phase de ces sept églises, voilà ce que tu as de bon et voilà ce que tu as de mauvais. Et à chacune d'elles, Dieu dit, écoute, réveille-toi, change, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. C'est toujours question de dominer, de vaincre dominer nos sentiments charnels, de vaincre notre nature humaine, de vaincre les attaques de Satan. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, nous vivons dans un monde où Satan voudra nous attaquer. Il nous attaque du reste, mais nous avons, nous, pour mission de vaincre, de ne jamais avoir peur de Satan, mais toujours avoir les yeux sur le Christ. Laissez-moi vous lire encore quelques autres passages de l'Apocalypse, lorsqu'il est question de Satan et de sa chute. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel, voyez-vous, parce qu'on parlait de Michel ou Michael, voyez-vous. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et les anges et ses anges ne furent pas les plus forts, dit la Bible. Non, c'est normal, parce que Dieu est fort. Satan, le diable et ses démons ne peuvent absolument rien faire lorsque l'archange Michel et les anges de Dieu les ont combattus. Le dragon et ses anges ne pouvaient rien faire. Et donc, enfin, ça, je saute dessus, ce n'est pas mon sujet. Et il fut précipité, verset 9, Apocalypse 12. Il fut précipité le grand dragon, on parle toujours de Satan, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Voyez-vous, tout est décrit, je ne peux pas dire davantage. Voilà la Bible qui dit clairement, ouvertement, que le diable a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Regardez voir. Regardez autour de vous. Regardez voir ces crimes qui se commettent sans raison du tout. Des gens qui, dans les rues, abattent quelqu'un d'autre sans raison aucune. Autrement dit, ce sont des démons qui influencent les gens. Et voilà pourquoi, je vous dis, lorsque vous voyez ce qui se passe, vous ne devez pas avoir peur du tout, mais vous devez savoir que ces choses arrivent, doivent arriver parce que Satan le diable a été précipité sur cette terre et ses démons avec lui. Ensuite, je tâche de mettre tout ça ensemble pour que je puisse donc terminer ce sermon à temps. Dieu a dit, ces gens qui écrit, et les anges de Dieu ont vaincu, dit-il, à cause du sang de l'agneau, du Christ, à cause de la parole de leur témoignage, et parce que ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui se soumettent à Dieu, n'ont pas craint la mort. Autrement dit, si vous êtes du côté de Dieu, si vous êtes sûr que Dieu vous protège, ne craignez rien. Même la mort. Écoutez, Dieu est votre protecteur. Dieu est toujours avec vous. Dieu sera toujours à côté de vous et vous protégera contre tout danger. Ensuite, parce que je suis en train de voir comment je peux vous expliquer ce qui se passe, vous, si vous ne connaissez pas le reste, laissez-moi peut-être lire le reste de ce chapitre un petit peu. Il dit, verset 12, Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, dit-il, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Voilà, vers la fin, ce qui va se passer. Animé d'une guerre, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est vrai, et c'est vrai, sachant, c'est aujourd'hui qu'il a très peu de temps. Voilà pourquoi ces attaques se multiplient. Voilà pourquoi il y a tellement de divisions, même au sein du christianisme. Parce que Satan est en rage. Voilà pourquoi tous ces crimes, je dirais même toutes ces maladies. Verset 13, Apocalypse 12. Quand le dragon vit qu'il avait peu de temps, il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Dans la Bible, la femme est présentée comme l'Église. Donc, il poursuivit l'Église de Dieu, qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire le Christ. Et deux grandes ailes furent données à la femme, à l'Église, afin qu'elle s'envole là. Autrement dit, Dieu va protéger son Église pendant un certain temps, jusqu'à ce que donc le Christ arrive. Alors, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes vers la fin des temps. Nous avons devant nous un avenir sombre. Sombre parce que Satan sait qu'il a peu de temps. Satan attaque l'Église et le monde entier. Mais une chose est certaine, et je répète et je répéterai, et comprenez ceci, je vous prie, Satan ne peut absolument rien faire sans la permission ou l'autorisation de Dieu. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans la vie des autres, ça n'a aucune importance. Tout dépend de votre attitude. Vous savez, dans mon ministère de plusieurs dizaines d'années, j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de gens qui pensent croire en Dieu, qui pensent être chrétiens. Et pourtant, ils rejettent les principes mêmes du christianisme. Si par exemple vous rejetez les lois de Dieu, si par exemple vous ne savez pas ce que c'est que le péché, comment pouvez-vous être vraiment chrétien? Regardez voir aujourd'hui. La plupart des chrétiens disent que les lois divines ont été abolies. Mais montrez-moi dans la Bible un seul passage où ceci est déclaré comme vous l'entendez. Non, sans loi, il n'y aurait pas d'existence humaine ni existence de ce monde. Tout est gouverné par des lois, y compris notre nature humaine, si vous voulez dire, si vous voulez, y compris notre vie entière. Donc, si il n'y avait pas vraiment de loi en ce bon monde, et si, pour être chrétien, on n'a pas besoin de se soumettre à des lois, vous pouvez vous imaginer où nous serions. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, et je cite verset 1 à 7. Il dit à Timothée, 2 Timothée 4, « Je t'en conjure, dit-il, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Verset 2. On peut prêcher la parole si nous sommes ministres, mettons, en parlant, ou bien on peut prêcher la parole par notre exemple, par notre attitude, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Je continue. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. » Voilà comment nous devons nous enseigner la vérité. Il dit, car il viendra, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est maintenant, mes frères et mes sœurs, que cela se passe ainsi. Nous sommes arrivés à un moment où les gens ne supportent pas la saine doctrine, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, agréables à la nature humaine, agréables à l'orgueil, ils se donneront toute une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà le christianisme aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, de par le monde. On veut entendre des choses agréables. On veut suivre les penchants de sa nature charnelle. Et ensuite, prétendre en même temps qu'on est chrétien. Je continue. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Verset 4. Étrange. La Bible nous dit exactement ce qui se passe, ce qui va se passer. Et les gens se demandent pourquoi Dieu nous cache-t-il la vérité? Ou bien, pourquoi Dieu ne nous met-il en garde? Mais voilà, je vous mets en garde. Écoutez, si dans tout ce que je vous dis, vous voyez des choses qui sont contraires aux enseignements bibliques, faites-le-moi savoir. Ne me suivez pas. Ne me croyez pas non plus. Croyez à ce que je vous cite en ce qui concerne les écrits bibliques. Dieu a dit, je répète, les gens détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais il nous dit, verset 5 de Timothée, chapitre 4, « Toi, dit-il, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Autrement dit, chacun a une responsabilité au sein de l'Église. Nous devons faire notre part et assumer nos responsabilités. Et l'apôtre Paul conclut, vous savez, ça c'est beau, verset 7 de Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu, dit-il, le bon combat. Pourriez-vous dire à tout moment dans votre vie que vous avez combattu le bon combat? J'ai achevé la course. » Autrement dit, le salut dont parle la Bible n'est pas une question que vous pouvez obtenir une fois pour toutes. Vous n'êtes pas sauvé jusqu'à la dernière seconde, pour ainsi dire, parce que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. L'apôtre Paul nous a donné l'exemple. Il nous a montré comment combattre ce sentiment de découragement, si vous voulez, ou bien comment combattre contre le Satan, le diable. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà. C'est simple, c'est beau, c'est difficile, oui et non. C'est difficile si vous faites tout ça vous-même. Mais si le Christ est avec vous, non, ce n'est pas difficile. Parce que c'est lui, le Christ, qui prend nos fardeaux sur ses épaules. Dans Matthieu chapitre 7, voyez encore comment le Christ décrit notre attitude, notre croissance, nos sentiments à l'égard de tout ce qui se passe. Matthieu 7, verset 15. Je continue. Gardez-vous, dit-il, des faux prophètes. Voyez-vous, tout est là, mes frères et mes sœurs. Nous ne faisons pas assez attention de ce qui se passe. Le Christ dit à maintes reprises, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Autrement dit, avec douceur, avec des paroles douces, si vous voulez. Mais au-dedans, dit-il, ce sont des loups ravisseurs. Et vous pouvez toujours vérifier. Vous ne pouvez pas dire, mais je ne savais pas que c'était un faux prophète. Prenez votre Bible. Vérifiez dans votre Bible ce qu'il vous dit. Et vous verrez si c'est un prophète de Dieu ou non. Si c'est un ministre de Dieu ou non. Si vous dites la vérité ou non. Vous le verrez, tout est là. Voilà pourquoi le Christ a dit, méfiez-vous. Ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, voilà. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, mais le mauvais arbre, dit-il, porte le mauvais fruit. Un bon arbre porte de bons fruits. Voilà comment vous pouvez connaître. Un arbre, dit-il, un bon arbre, dit-il, ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de mauvais fruits. Voilà. Autrement dit, je vous ai parlé lors de ce sermon, et du sermon que j'ai fait la dernière fois sur l'orgueil. Nous avons devant vous un choix. Un choix ou bien suivre le Christ et ses enseignements, nous soumettre à sa volonté, ou bien suivre Satan le diable en faisant ce que notre propre orgueil nous commande de faire. En suivant les voies charnelles, en cédant, je dirais, à nos sentiments d'orgueil et de vanité. Aujourd'hui, je répète, beaucoup de gens prétendent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils disent, vous savez, il est facile de citer dans la Bible des versets, de tirer des versets hors de leur contexte et prétendre que voilà ce que Dieu dit. Il est très facile parce qu'on peut tirer un verset hors de son contexte. Par exemple, il y a des gens qui disent, si je peux trouver ici, ah oui, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, je parle maintenant, je prends une petite phrase, voilà comment on peut tordre. Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent, ce qui lui appartiennent. Quiconque, alors, on peut prendre ce verset, tordre et en construire un faux, une fausse religion. Quiconque prononce le nom du Seigneur, OK, je reprends. Regardez voir ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Voilà la base. Maintenant, comparez ceci avec ceux qui disent « Oh, croyez au Seigneur, vous serez sauvés. » Non, ce n'est pas marqué cela. Ça, c'est séparer les versets bibliques. Pour croire en Christ, vous devez vous éloigner du péché. Autrement, vous ne pouvez pas croire en Christ. Donc, ceux qui disent que vous êtes sauvés une fois pour toutes, ou bien croyez en Dieu et vous serez sauvés, ce sont des menteurs. Voilà le problème. Voyez-vous, n'importe qui peut prendre cette Bible, tordre cette Bible, et vous faire croire quelque chose qui n'est pas vraiment juste. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous mets en garde. L'apôtre Paul a parlé de la fin des temps. Le Christ a parlé de la fin des temps. Les apôtres, plus tard, ont parlé de la fin des temps. La Bible entière parle de la fin des temps. Mais Paul, plus que les autres, lui qui a écrit 4 épîtres, il nous décrit comment sera la vie au dernier jour. Laissez-moi vous le citer. C'est incroyable. Vous savez, je pourrais prendre chaque verset ici, chaque mot ici, en faire un sermon. En fait, laissez-moi vous dire en secret pour ainsi dire, lorsque la première fois j'ai fait une émission radiophonique sur RTL, je ne savais pas comment vraiment commencer mon émission. Et j'ai pris justement ces versets-là. J'ai parlé des temps de la fin, il y a 40 ans de ça. J'ai justement parlé des temps de la fin, et j'ai cité ces mêmes versets que je cite maintenant, alors que je vois aujourd'hui ces mêmes versets. À l'époque, c'était déjà à peu près ça. Aujourd'hui, c'est pire. Notez-le. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Et prenez le temps, analysez, ça vaut la peine. Sache, dit-il, que dans les derniers jours, et je le répète, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous, il faut le dire, mes frères et mes sœurs, nous vivons des temps difficiles, ce n'est pas facile de voir même l'économie, même la vie de famille, même les maladies. Tout est en pleine confusion à ce bon monde. Mais nous ne devons pas nous décourager, pas du tout. Il ne faut pas se décourager, parce que Dieu est avec nous, Dieu nous protège, Dieu nous dit d'avance que ces choses vont arriver. Il dit, verset 2 de Timothée 3, « Car les hommes seront égoïstes. » Voilà, par un seul mot, il vous décrit, seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui, regardez voir. Tout est dicté par l'argent, par la richesse terrestre. Fanfarons, ils ont peur. Hautains, c'est quoi? Plein d'orgueil. Blasphémateurs, qu'est-ce qu'on blasphème le nom de Dieu? Autrement dit, je dis chaque mot est développé. Rebelles à leurs parents, ça vous dit quelque chose? Regardez les enfants où ils en sont aujourd'hui. Ingrats, ce monde aujourd'hui est plein d'ingratitude. C'est rare des gens qui apprécient ce qu'ils ont. Ils veulent davantage. Nous avons tous, chacun de nous, nous avons plus que nous ne méritons. Nous méritons la mort éternelle. Et pourtant, Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous donne la force de vaincre. Comment ne pourrions-nous pas être, nous autres, reconnaissants envers Dieu? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ingrat, irréligieux, autrement dit, sans religion. On prétend être religieux, mais vraiment, ce n'est pas la religion. Insensible, verset 3. Non, on s'en fiche. Déloyaux. Oui, déloyaux, c'est le contraire de loyal. Et Il y a tellement de gens qui sont déloyaux, et dans les affaires, et dans les familles, et dans leurs filles. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je répète, prenez le temps, méditez. Une partie de la Bible, voyez-vous, s'apprend ou bien se comprend lorsque vous méditez, lorsque vous lisez. Lorsque vous lisez ces versets comme je fais maintenant, prenez le temps et méditez. C'est quoi rebelle? Analysez. Autrement dit, rebelle, c'est marcher contre les lois, contre l'autorité. Et faites ceci. Par exemple, c'est quoi blasphémateur? Combien de gens prononcent le nom divin en blasphémant? Voyez-vous, si vous lisez comme ça la Bible, vous pouvez mieux comprendre votre attitude et mieux éviter des fautes que vous commettez, que vous n'auriez pas dû commettre. Verset 4, traître, emporté, enflé d'orgueil, voyez-vous, ça revient, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ces quelques phrases, ces quelques mots décrivent déjà où nous en sommes aujourd'hui. Si vous aimez le plaisir plus que Dieu, vous n'êtes pas digne d'être appelé par Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Christ est notre Créateur. Le Christ a permis que ces choses arrivent. Le Christ a permis que Lucifer, qui a succombé à ses propres sentiments d'orgueil, devienne Satan le diable. Mais le Christ ne va pas permettre, et ne permettrait pas, ne permettra jamais, je dirais, que Satan vous touche, un démon vous touche, vous nuise, si vous ne vous résistez pas, mettons, et si vous vous tournez vers le Christ. Ça, c'est votre base. Et voyez-vous ce qui va se passer? Le Christ, à son retour, et ça, c'est proche maintenant de l'autorité du Christ, tout cela va changer parce que Satan ne sera plus maître, le Dieu de ce siècle. Les démons ne seront plus sur cette terre. Alors, beaucoup de choses qui se passent maintenant ne feront plus jamais se passer. Tout ce que nous devons faire, toujours, en toute chose, avoir dans l'esprit que nous avons besoin de courage, ce courage vient de Dieu. Nous avons besoin de conviction, cette conviction nous vient de Dieu. Nous avons besoin d'avoir les yeux sur le Christ. Si nous avons les yeux sur le Christ, nous ne craignons rien. Vous vous rappelez l'histoire de l'apôtre Pierre, lorsqu'il était dans la barque avec le Christ, et que lui et les autres disciples étaient endormis, et tout d'un coup, il voit le Christ à peu près marcher sur la mer. Alors Pierre dit, « Oh, mais c'est le Christ !» Il dit, « Écoute, dis-moi que je puisse aussi moi marcher sur l'eau. » Le Christ a dit, « Viens !» Et pour autant que les yeux de l'apôtre Pierre étaient sur le Christ, il a marché sur les eaux. Il a fait quelques pas, mais lorsqu'il a détourné ses yeux du Christ, il a plongé. C'est exactement cette histoire-là, une histoire réelle, dont nous avons besoin dans notre vie. Pour autant que nos yeux sont sur le Christ, nous ne tombons pas. Il y a des vagues autour de nous, ça n'a pas d'importance, nous sommes toujours solides sur nos pieds. Oui,